franceinter.fr.
Marcel !
L'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer.
Au fond, je m'habituerai vite à être loin de maman.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
L'important dans la vie n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer. Les réflexions sur le bonheur d'aimer sont trop rares chez Proust, pour ne pas les citer. Celle-ci nous est livrée par le baron de Charlus dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le deuxième tome de la recherche. Charlus, qui vient à peine de faire son entrée dans le roman et qui séduit déjà le narrateur avec cette maxime inspirée de la Bruyère. Il y a en effet une certaine élégance dans cette phrase, une finesse de sentiment, dira le romancier, qui tranche néanmoins avec le caractère orgueilleux, cruel et parfois obscène de cet aristocrate parisien. Car Charlus est aussi charmeur qu'inquiétant. Son regard hypnotique déstabilise, sa culture littéraire impressionne, mais surtout, ses habitudes sexuelles interrogent. C'est d'ailleurs à travers lui que Marcel Proust entame sa réflexion autour de Sodome et de ce qu'il nomme les invertis, comprenez les homosexuels. Ce soir donc, pour ce quatrième épisode autour des personnages de la recherche du temps perdu, en compagnie de Jean-Yves Tadier, je vous propose de nous pencher sur les mystères de Palamède de Guermantes, alias Charlus, ce Don Quichotte magnifique qui n'a pas fini de nous surprendre.
Il y a longtemps que les gens du monde ont cessé de m'intéresser. Je n'ai plus qu'une passion. Chercher à racheter les fautes de ma vie en faisant profiter de ce que je sais, une âme encore vierge et capable d'être enflammée par la vertu. Qui sait si vous n'êtes pas celui dont je pourrais diriger et élever si haut la vie. Pour le savoir, il faudrait que je vous vise souvent, très souvent. Chaque jour. Le premier sacrifice qu'il faut me faire, c'est de ne pas aller dans le monde. Vous ne feriez que déformer votre caractère et votre intelligence. Ayez des maîtresses si votre famille n'y voit pas d'inconvénient. Je ne peux que vous y encourager, jeune polisson.
Bonsoir Jean-Yves Tadier.
Bonsoir.
Nous venons d'entendre un extrait de l'adaptation par Nina Companès de La Recherche et c'est Didier Sandre qui interprète le fameux baron de Charlus, baron qui propose au narrateur d'être en quelque sorte son mentor. Pourquoi s'intéresse-t-il autant à lui? Pourquoi veut-il l'aider?
C'est que, évidemment, Charlus est amoureux du jeune homme. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, car dans Du côté de chez Swann, il apparaît au détour d'une allée à Combray, lorsque passe le narrateur encore enfant, et le texte nous dit qu'il le dévisage avec des yeux exorbités. Sans commentaire, on comprend là rétrospectivement que c'était déjà une expression du désir sexuel. Donc là, Charlus a ce fantasme très gidien, au fond, du mentor et du jeune disciple, très grec. C'est l'amour grec. Un homme d'âge mûr forme un éphèbe, un jeune homme d'une grande beauté aux réalités de la culture et de la vie.
Vous parliez du regard de Charlus, mais c'est vrai qu'à chaque apparition de ce personnage, le narrateur parle des yeux de Charlus. C'est vraiment très présent tout au long des tomes de la recherche.
Proust est expert en créateur de regards. Chaque personnage a son regard propre. La duchesse de Guermantes, par exemple, a des yeux comparés à une pervenche impossible à cueillir et pourtant elle m'eût dédiée. Et Charlus a ses yeux à la fois très intelligents, très profonds et très chargés de violence, c'est-à-dire de la violence du désir et de la quête. Et en même temps, des yeux fuyants, parce qu'il est, Proust dit assez drôlement, qu'il regarde tout le temps à droite et à gauche, comme s'il voulait s'assurer que la police n'était pas en train d'arriver.
J'en parlais en introduction, il fascine hein, ce baron de Charlus, mais il est frais aussi, il a quelque chose presque d'inquiétant, mais presque de monstrueux, sans pour autant paraître détestable aux yeux du lecteur. Hein, mais
André Monroy, au cours de l'entrevue dont nous avons parlé l'autre soir, m'avait dit « Tout grand romancier et créateur de monstres, Balzac a créé Vautrin, Dostoïevski a créé Raskolnikov et Proust a créé Charlus ». C'est en effet cela, c'est un monstre sympathique, mais un monstre tout de même. C'est un personnage qui a un relief extraordinaire grâce à la complexité de ses traits, puisqu'il est à la fois cultivé, musicien, peintre, généreux, grand aristocrate, mais critique à l'égard de son milieu, protecteur des jeunes gens. Et c'est l'un des rares personnages dont presque toute la vie nous est présentée dans le roman. Il a été marié, d'ailleurs, autrefois.
Il est veuf, inconsolable.
Et à la fin, il est frappé d'une attaque. Il sera promené dans une chaise roulante par son fidèle Jupien. Et en même temps, dans différentes circonstances du roman, des circonstances historiques, il joue un rôle important. Par exemple, pendant la guerre de 14, il incarne la pensée de ceux qui réprouvent profondément ce gigantesque massacre.
Alors Charlus, il a une étrange personnalité, très intrigante. Il est à la fois très public, il est de toutes les réceptions, de tous les salons, de toutes les soirées. Et en même temps, il est caché, il se cache de tous à certains moments. Il se révèle enfin tel qu'il est au tout début de Sodome et Gomorre. Le narrateur qui habite dans l'hôtel de Guermantes à Paris assiste malgré lui, depuis l'escalier, à une scène de séduction qui se déroule sous ses yeux, à l'extérieur, dans la cour. Et c'est Charlus qui rencontre Jupien, qui deviendra donc par la suite son amant. On écoute Guillaume Gallienne qui lit ce passage.
À ce moment où il ne se croyait regardé par personne, les paupières baissées contre le soleil, Monsieur de Charlus avait relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice qu'entretenait chez lui l'animation de la causerie et la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort, ses traits fins ne recevaient plus d'un regard volontaire une signification différente qui altéra la beauté de leur modelé. Plus rien qu'un Guermantes, il semblait déjà sculpté, lui, Palamède XV, dans la chapelle de Combray. Mais ces traits généraux de toute une famille prenaient pourtant dans le visage de Monsieur de Charlus une finesse plus spiritualisée, plus douce surtout. Je regrettais pour lui qu'il adultérât habituellement de tant de violence, d'étrangeté déplaisante, de potinage, de dureté, de susceptibilité et d'arrogance, qu'il cachât sous une brutalité postiche l'aménité, la bonté qu'au moment où il sortait de chez Madame de Villeparisis, je voyais s'étaler si naïvement sur son visage. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien Monsieur de Charlus eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme.
Jean-Yves Tadié, donc Charlus, ce baron de Charlus, assimilé, comparé clairement à une femme.
Et en effet, on rejoint là la conception que Proust se faisait de ce qu'on appelait à son époque, ce qu'il appelle lui-même l'inversion, ce qu'on appellera, si l'on veut, l'homosexualité, qui est réduit en fait presque à une seule variété, si je puis dire, celle des hommes qui se sentent femmes et aiment des jeunes gens, en fait, virils. Et au fond, c'était le cas de Proust lui-même, très probablement. Donc, cela s'incarne parfaitement dans les amours tumultueuses entre Charlus et le musicien Morel, par exemple, plus calmement dans les amours entre Charlus et Jupien. Et ce sera l'occasion d'une sorte d'admirable manifeste qui s'appelle Sodome et Gomorre. Vous savez d'ailleurs que lorsque Proust craignait qu'on ne lui refuse son manuscrit, il s'imaginait pas du tout qu'on lui refuserait du côté de chez Swann, parce que simplement on n'aimait pas son style, ou qu'on trouvait qu'il ne se passait rien, ou que les personnages passaient trop de temps à s'endormir. Pas du tout. Il croyait que ça choquerait moralement, parce qu'il avait l'audace de peindre un homosexuel dans le personnage de Charlus. Et lorsque il conçoit de prolonger le temps retrouvé par un épisode qui se passe pendant la guerre de 14. Il l'appelle d'abord Monsieur Charlus pendant la guerre. C'est dire à quel point ce personnage est au centre de tout. Et pour lui, l'occasion d'une sorte, moins d'une théorie d'ailleurs, que de sociologie de l'homosexualité au début de Sodome et Gomorre. Donc, cette genèse de l'homosexualité est parfaitement incarnée dans le personnage de Charlus et l'occasion de cet admirable texte théorique où Proust, qu'il avait d'abord appelé ce passage « La race maudite », montre comment les homosexuels ont toujours été une minorité persécutée. Et ce n'est pas fini. Il y a une phrase de plus d'une page qui est absolument bouleversante sur ces hommes qui sont toujours obligés de se cacher, qui ont peur d'être arrêtés, qui n'osent même pas avouer à aux personnes les plus chères, y compris à leur mère, leur tendance profonde. C'est un passage qui a une ampleur lyrique, une audace et un courage, parce que personne, il y avait eu d'autres écrivains homosexuels et nombreux depuis Platon, mais personne n'avait eu le courage qu'a eu Proust, lui, petit, malingre, malade, déjà critiqué pour mille autres raisons, d'édifier ce texte. Et en plus, il est l'homme de toutes les minorités. Proust, c'est une de ses grandeurs. La minorité des malades, qui n'est jamais très bien vue, et la minorité des juifs. Il ne se reconnaissait pas comme juif, mais il disait aussi que sa mère était juive. Et la minorité des homosexuels. Et même, on pourrait dire, d'une certaine façon, la minorité des grands artistes, qui sont toujours incompris.
J'aimerais qu'on revienne à ce que vous venez juste de dire. Vous parlez des persécutés, des homosexuels persécutés, et ça nous renvoie directement au titre de ce quatrième tome de la recherche, Sodome et Gomorre. Il faudrait préciser quand même que c'est une référence biblique,
voilà. Sodome et Gomorre sont deux cités antiques qui ont été détruites par le feu, comme on voit dans la Bible. Alors, c'est dans la Genèse, je crois. On n'insiste pas sur cette destruction. Il y a d'ailleurs encore maintenant en Palestine des sites qui s'appellent Sodome et Gomorre. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la Bible, il y a des condamnations plus que sévères de ce qu'on appelait élégamment des sodomites, habitants de Sodome, et c'était puni de mort. Et donc cette peine de mort, elle existe encore dans certains pays actuellement. Vous savez, notamment dans le monde arabe. Et c'est parfaitement ignoble, il faut le dire. Mais du temps de Proust, il y a eu des affaires célèbres. Proust fait référence à Sodome et Gomorre, à cet homme le plus fêté de Londres la veille et qui le lendemain est traîné au bagne. C'est l'affaire Wilde, envoyé 2 ans au bagne à la geôle de Reading. C'est la honte de la Grande-Bretagne. Donc on était environné d'affaires de ce genre. La France était d'ailleurs un des pays où certainement on condamnait le moins, on persécutait le moins les homosexuels, mais enfin il fallait tout de même être prudent.
Charlus, figure en quelque sorte Sodome. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que ce passage qu'on vient juste d'entendre, il est vraiment au cœur du livre. C'est une place quand même très symbolique que Proust réserve à Charlus, peut-être, mais surtout au sujet, à l'homosexualité en elle-même.
Oui, absolument. Il faut voir pourquoi. C'est pas simplement parce qu'il l'était et une sorte de confession déguisée, parce que justement le narrateur n'est pas homosexuel, il faut le dire en passant. Il ne l'est pas, notamment parce que la majorité des lecteurs doit pouvoir se reconnaître en lui. Et ensuite, il ne veut pas non plus se livrer entièrement et faire du narrateur une image complète de lui-même. Mais ce qui l'intéresse particulièrement, c'est le jeu entre l'apparence et la profondeur, l'apparence et la réalité. Charlus est un homme ultra viril extérieurement, et c'est une femme à l'intérieur. Voilà qui est passionnant à décrire pour un artiste et pour un romancier. De même que toutes sortes de personnages doubles passionnent Proust. Les snobs, par exemple, sont des gens qui veulent appartenir à un autre milieu que le leur, donc sont deux choses à la fois. Tout ce côté double le fascine, parce que c'est le romancier de l'essence sous l'apparence. Et quelle est l'essence de l'homosexualité selon Proust, c'est finalement le mythe de l'hermaphrodite. Ces êtres qui ont été séparés dans la plus haute antiquité en deux moitiés, ces deux moitiés cherchent à se rejoindre.
Jean-Yves Tadié, l'homosexualité dans la recherche, en tout cas, Charlus, est souvent présenté par Proust comme quelque chose d'illicite, d'interdit. C'est souvent, Sodome est souvent associé à une certaine violence.
Oui, c'est vrai, et notamment à la fin, on entend trouver au sadomasochisme, puisque Charlus a des pratiques sadomasochistes qui ne sont pas, il faut le souligner, liées forcément à l'homosexualité. Il y a des hétérosexuels qui sont sadomasochistes aussi bien. Il faut dire aussi qu'il y a, des lesbiennes, d'ailleurs, il y a une homosexualité féminine très présente, il y a Sodome et Gomorre, et on en reparlera peut-être à propos d'Albertine. Donc, il y a les deux. Mais Charlus a un côté violent aussi, en effet, comme possédé par instant, c'est pas un individu normal. Jupien, qui est tout aussi homosexuel que Charlus, est un personnage sympathique, gentil et doux, qui n'a pas du tout cette violence qui en fait, en effet, quelque chose de monstrueux, qui n'est pas lié du tout à son orientation sexuelle, au contraire.
Alors pourquoi force-t-il le trait de cette violence? Pourquoi insiste-t-il sur cette violence du personnage?
Je pense que c'est pour la beauté du geste artistique.
Charlus, Proust ne le fait pas mourir, contrairement à Swann et Albertine qui disparaissent.
Mais il fait mourir très peu de personnages. Au fond, Proust devait se méfier de la mort par quelque côté. Donc, il n'avait pas tort. Donc, il fait mourir très peu de gens. Autrement dit, les morts, qui sont des grands morceaux balzaciens, souvent, c'est la mort du père Goriot, par exemple, ce n'est pas du tout quelque chose qui intéresse Proust. En revanche, la vieillesse un peu déchue, ça lui vient aussi un peu de Saint-Simon et un peu de Chateaubriand, deux écrivains qu'il aimait énormément.
Charlus, donc, il reste un personnage éternel. Merci beaucoup, Jean-Yves Tadié. Demain, c'est d'Albertine, la mystérieuse Albertine dont il sera question. D'ici là, je vous invite à vous rendre sur la page de l'émission sur franceinter.fr, rubrique Un été avec Proust, pour retrouver les références des textes cités à l'antenne ce soir.